Bonjour, bienvenue, il est 9h à Paris, 8h en temps universel. RFI vous informe et vous donne la parole dans 10 minutes, vos questions sur l'actualité et dans 40 minutes, vos réactions sur la Côte d'Ivoire. À 7 mois de la présidentielle, le pays a-t-il besoin d'un nouveau dialogue politique? C'est en tout cas ce que réclame l'opposition. Mais d'abord le journal. Bonjour Marion Cazeneuve.
Bonjour Juan, bonjour à tous. En Syrie, le défi d'une transition pacifique. Le président par intérim annonce un accord avec les Kurdes des FDS, celui qui promet l'unité du pays après la chute de Bachar al-Assad. Il a aussi annoncé la fin des combat dans l'Ouest contre, justement, des fidèles du président déchu. La reprise du dialogue entre Kiev et Washington, une délégation ukrainienne rencontre une délégation américaine aujourd'hui en Arabie Saoudite pour poser les bases d'un futur cessez-le-feu avec la Russie. Le Ghana tente un rapprochement avec les pays de l'AES et espère maintenir avec eux des liens commerciaux. Le président ghanéen John Dramani Mahama était hier au Burkina Faso. Et puis les bourses mondiales inquiètent des dernières déclarations de l'administration américaine. La bourse de New York, par exemple, a plongé hier face aux nombreuses incertitudes que laisse planer Donald Trump. En Syrie, un accord que l'on n'attendait plus entre la présidence et les Kurdes des FDS, les forces démocratiques syriennes qui gèrent la région autonome du Nord-Est. Cet accord prévoit l'intégration de ces Kurdes dans les nouvelles institutions du pays. Le chef des FDS s'en est félicité. Les Kurdes, pour Cédric Labrousse, doctorant à l'EHESS, ont intérêt à avoir de bonnes relations avec le nouveau pouvoir de Damas.
Il devenait extrêmement complexe pour les Kurdes de tenir une position avec le grand ami instable désormais, qui était les États-Unis. La manière dont la politique étrangère des États-Unis est en train d'être menée par la nouvelle administration Trump ne peut pas fournir les garanties passées qui étaient celles des anciennes administrations vis-à-vis de leurs alliés kurdes en Syrie. Il fallait donc établir quelque chose avec le nouveau gouvernement. C'était sinon la difficulté de se retrouver seul, c'est-à-dire en désaccord avec les nouvelles autorités syriennes centrales à Damas, en désaccord avec le calendrier politique du dialogue, si l'on peut dire, entre le PKK et la Turquie, et enfin en désaccord avec le retrait potentiel de l'administration américaine du théâtre syrien.
Cédric Labrousse de l'EHESS avec Théo Renaudon. Le président par intérim Ahmed Al-Shara poursuit donc ses efforts pour une transition pacifique avec cet accord avec les Kurdes. Il a aussi annoncé hier la fin des combats entre les forces de sécurité et des fidèles de Bachar al-Assad, le président déchu. Ces combats dans l'Ouest, toutefois, ont été sanglants et ont tourné au massacre de civils. Plus de 1000 civils sont morts, victimes d'exécutions sommaires, voire d'opérations de nettoyage ethnique pour l'OSDH. La grande majorité de ces victimes est issue de la minorité alaouite, minorité dont est issu Bachar al-Assad. Toujours au Proche-Orient, les pénuries s'accentuent à Gaza. Les Palestiniens subissent désormais des coupures de courant puisqu'Israël a cessé l'approvisionnement en électricité. Déjà depuis une semaine, l'enclave est aussi privée de l'arrivée d'aide humanitaire. Israël met ainsi la pression sur le Hamas pour la libération des otages. Cela alors qu'ont débuté des pourparlers à Doha, au Qatar, pour une poursuite de la trêve. L'Arabie Saoudite, autre pays du Golfe, accueille elle aussi des pourparlers diplomatiques, cette fois sur la guerre en Ukraine. Une délégation ukrainienne rencontre aujourd'hui une délégation américaine. Après le Mali et le Niger, le nouveau président ghanéen John Dramani Mahama a terminé sa tournée des pays de l'AES au Burkina Faso. Il était censé les convaincre de retourner dans la CDAO, mais en a aussi profité pour y travailler des relations bilatérales. John Dramani Mahama a évoqué la possibilité d'un vol aérien quotidien entre Accra et Ouagadougou, également la construction d'un gazoduc entre les deux pays. Un des grands enjeux pour le Ghana est de maintenir ses liens commerciaux et le trafic portuaire avec les pays enclavés de l'AES, car depuis la sortie de ces États de la CDAO, le Ghana, Claire Fage, ne partage plus la même zone de libre-échange.
C'est une préoccupation pour le nouveau président John Dramani Mahama. Le Ghana ne faisant pas partie de la zone de libre-échange de l'UMOA, il lui faut conclure des accords bilatéraux avec les pays de l'AES qui ont quitté la CDAO. François Giovalucchi, expert de la zone franc.
Autant l'AES et les autres pays de la zone franc appartiennent toujours à la même zone de libre-échange, La question se pose pour le Ghana et le Nigeria. Donc, pour un pays côtier comme le Ghana, il a intérêt à trouver des solutions pour calmer le jeu et faire en sorte que, par exemple, ses échanges avec le Burkina Faso ne soient pas taxés.
Il s'agit en particulier pour le Ghana de maintenir le rang de son port Tema vis-à-vis des ports concurrents de la CEDEAO. Yann Alix, expert du transport maritime.
Aujourd'hui, on a une vraie bataille des corridors avec trois grandes clés d'entrée que sont Abidjan, Tema et maintenant Lomé. Sur Burkina Mali, vous avez une triple option pour les chargeurs et pour les organisateurs de transport. Et aujourd'hui, depuis 2 ans, avec l'ouverture du deuxième terminal à Abidjan, Tema avance beaucoup moins vite.
Pour préserver ce trafic de transit à Tema, les autorités ghanéennes ont déjà accordé un allègement de redevance aux chargeurs burkinabés en décembre, tandis que les autorités de Ouagadougou annoncent avoir acquis un dépôt d'hydrocarbures sur le port ghanéen.
Claire Fage du service Afrique de RFI. Aux Philippines, l'ancien président arrêté pour crime contre l'humanité, Rodrigo Duterte, a été interpellé à son arrivée à Manille. Il était auparavant à Hong Kong et est visé par un mandat de la Cour pénale internationale. Rodrigo Duterte avait lancé dans le pays une guerre meurtrière contre le trafic de drogue. Des milliers de personnes sont mortes dans ce cadre pendant son mandat entre 2016 et 2022. Human Rights Watch appelle les autorités philippines à remettre rapidement Rodrigo Duterte à la CPI. La Chine, elle, demande à la CPI d'éviter le deux poids deux mesures et à exercer ses pouvoirs avec prudence. Pékin qui vient de clôturer à l'instant les deux sessions, l'événement politique le plus important de l'année qui réunit des milliers de délégués et au cours duquel sont validées de nombreuses lois. RFI 8h06 en temps universel. Les bourses mondiales fébriles ces derniers jours. Hier, la bourse américaine a poursuivi sa chute, moins 4% pour le Nasdaq, moins 2% pour le Dow Jones. Et cette mauvaise passe s'explique par les dernières déclarations de l'administration Trump qui inquiètent les investisseurs, comme le détaille Aurélien Lux, analyste financier.
Il y a tout d'abord la crainte d'un retour de l'inflation aux États-Unis. Alors pourquoi ? Parce que justement, on parle beaucoup des barrières douanières, ce qui pourrait justement faire augmenter le prix pour le consommateur, donc d'une reprise de l'inflation. Et en plus de ça, c'est le deuxième point, effectivement, c'est d'un ralentissement économique. La croissance américaine était très très bonne encore l'année dernière, et là, cette année, on a ce double effet à la fois, une possible reprise de l'inflation, et en plus de ça, un ralentissement économique, justement à cause des politiques de la nouvelle administration Trump, qui pourrait conduire à une forme de ralentissement économique. Et quand on parle d'un ralentissement économique et d'une reprise possible d'une inflation, on a ce mot qui est la stagflation, qui fait peur au marché.
L'analyste financier Aurélien Lux avec Altin Lazage. Et l'entreprise d'Elon Musk, Tesla, est particulièrement dans le rouge. Son action a plongé à nouveau de plus de 8% hier. En soutien, le président américain Donald Trump a dit qu'il allait s'acheter lui-même une voiture de l'entreprise. Elon Musk, chargé dans le gouvernement américain de faire des millions de dollars d'économies avec des coupes budgétaires dans de nombreux secteurs et notamment avec le démantèlement de l'USAID, l'agence américaine d'aide au développement. Elle a vu la suppression en tout de 83% de ses programmes, selon Marco Rubio, le secrétaire d'État américain. Le détail des programmes annulés n'a pas été précisé, mais ceux consacrés à l'environnement, au climat sont probablement largement concernés et cela aura un impact considérable, Simon Rosé, sur le financement climatique mondial.
En 2024, avec un peu plus de 10 milliards d'euros, l'aide américaine dans la lutte contre le réchauffement climatique représentait près d'un dixième des financements mondiaux. Qu'en restera-t-il cette année ? A priori, pas grand-chose, voire rien du tout. USAID, l'agence américaine de développement, a porté à elle seule un tiers de cette somme via des centaines de programmes. Ces derniers seront parmi les premiers annulés après l'annonce de Marco Rubio, ces fonds ayant été depuis le début identifiés comme cible principale. Les milliards restants sont gérés par plus d'une douzaine d'organisations qui distribuent des subventions, des prêts, des financements pour le développement. Il y a également la participation à des fonds internationaux, participation menacée également. Les États-Unis ont par exemple annulé un engagement de 4 milliards d'euros au Fonds vert pour le climat. En prenant en compte cette annulation, la contribution du pays à ce fonds est désormais inférieure à celle de la Suède, dont l'économie est 50 fois plus petite, calcule le média spécialisé Carbon Brief. Un niveau d'engagement bien loin de la responsabilité américaine dans le réchauffement climatique. Le pays le plus riche du monde est également celui qui a émis historiquement le plus de gaz à effet de serre.
En football, les huitièmes de finale, retour de Ligue des Champions. Parmi les affiches Liverpool-PSG, les Parisiens n'ont pas le droit à l'erreur et même ils devront créer l'exploit ce soir puisqu'à l'aller à domicile, les Parisiens ont perdu in extremis 1-0 après avoir pourtant dominé. Coup d'envoi du match 20h, temps universel. On suivra cette rencontre en direct et en intégralité sur RFI. Dans les autres affiches, Barcelone-Benfica, Inter Milan-Feyenoord-Rotterdam et Bayer Leverkusen contre le Bayern Munich. 9h10 à Paris, à suivre sur RFI. Appel sur l'actualité avec Juan Gomez.
Merci Marion Cazeneuve, reste avec nous.